Bonjour, je m'appelle Hervé Bismuth, je suis enseignant de littérature française à l'Université de Bourgogne, où j'ai un cours de télé-enseignement en littérature française dès le XVIIe siècle, et je fais travailler cette année, toute l'année, mes étudiants sur Molière, notamment en ce moment sur le Misanthrope de Molière. Je reçois Benoît Lambert, qui est metteur en scène à La Tentative à Dijon, et qui fait jouer le Misanthrope de Molière au théâtre Dijon-Bourgogne au Parvis Saint-Jean du mardi 20 au vendredi 23 mars. Bonjour Benoît Lambert.
Bonjour.
D'abord, pourquoi monter le Misanthrope? Je pose la question parce que oui, c'est une œuvre du XVIIe siècle, écrite dans les années 1660, qu'on peut regarder, qu'on peut observer, qu'on peut travailler comme objet d'étude pour apprendre, pour connaître la littérature, notre histoire littéraire, notre histoire du théâtre. Vous le montez parce que vous partez du principe que d'abord ça vous intéresse, ça intéresse vos comédiens et de toute façon c'est censé intéresser vos spectateurs, j'espère, pour des raisons autres que scolaires.
Oui. en fait, l'histoire du spectacle, la façon dont la tentative s'est emparée de ce texte-là, est liée à un autre spectacle. Je le précise parce que cet autre spectacle, il sera aussi présenté au Parvis le 23 mars, dans un diptyque avec le Misanthrope. On avait fait un spectacle en 2002, peu de temps après le 21 avril, un spectacle qui s'appelait Ça ira quand même, et qui était un spectacle à partir de textes contemporains, et qui était un essai ou un effort pour porter un regard sur les événements politiques récents auxquels on venait d'être confrontés. La victoire du... Enfin, la victoire. L'arrivée de Le Pen au second tour, mais pas seulement. Mais la victoire de la droite, ensuite. L'arrivée de Sarkozy à l'intérieur. Enfin, bref, une nouvelle configuration du paysage politique qui, nous avait laissé assez pantelant. Il y avait eu les municipales aussi avant. Je prends un peu de temps pour raconter, parce qu'il y a vraiment une matrice, là, qui a été importante pour nous.
Municipal à Dijon.
Non, les municipales, j'étais à Mâcon, moi, à l'époque, en résidence à la scène nationale de Mâcon. La droite avait gagné la mairie. Il y avait eu des difficultés dans la scène nationale où on était artistes associés. Et au moment où on a quitté la scène nationale, on a créé ce spectacle qui s'appelait Ça ira quand même, qui était un collage de textes. Il y avait des textes de Raoul Vaneghem, des textes de Deleuze. Et puis, il y avait un texte de théâtre d'un auteur néerlandais qui s'appelle Don Duins, qui était la matrice un peu tout le spectacle. Un texte qui s'appelait 20 ans et alors, contre quoi faut-il encore se rebeller? Donc ça, c'était la matrice de ce spectacle, Ça ira quand même, et qui était encore une fois un regard sur notre situation politique de l'époque, du moment, sur le désarroi politique dans lequel on se trouvait, et aussi un regard sur notre génération, enfin la mienne, j'ai 35 ans, et son rapport compliqué à la chose publique, d'engagement, de désengagement, enfin voilà, il y avait une sorte de réflexion générale, et une forme assez particulière, une sorte de cabaret à la fois tragique et burlesque, enfin bon. Et on a exploité ce spectacle assez longtemps, on l'a joué longtemps, et il y avait vraiment là une troupe, enfin un groupe d'acteurs, ils étaient six, les comédiens qui jouaient cette pièce, six comédiens, avec lesquels je travaillais déjà depuis un certain temps, et les voyant traverser cette matière, cet objet théâtral, ça ira quand même assez singulier, j'ai eu tout à coup envie d'affronter avec eux une écriture classique. De me dire, mais faisons le contraire. Enfin, j'y avais là vraiment une équipe, un groupe d'acteurs, qui me donnait, moi, des envies de théâtre, tout simplement. Et parce qu'il y avait comme ça cette réflexion sur le 21 avril, il y a eu les émeutes en banlieue en 2005. Enfin, nous, on a travaillé en Seine-Saint-Denis entre-temps, à Blanc-Mesnil. Moi, je commençais à me poser une double question. C'était, qu'est-ce que c'est que le patrimoine national? Qu'est-ce que c'est la culture nationale? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait encore quelque chose? À qui elle appartient? Comment est-ce qu'on peut la transmettre, nous, à l'endroit où on est? Ou en tout cas la questionner, l'interroger? Comment est-ce qu'on peut revenir à la question du patrimoine national? Parce que dans tout ça, Le Pen, les émeutes en banlieue, notre passage par la Seine-Saint-Denis, j'avais le sentiment qu'une question qui... Le référendum sur l'Europe, enfin, j'avais l'impression qu'il y avait une question qui commençait à devenir brûlante, qui était, au fond, c'est quoi être français? Est-ce que c'est encore quelque chose être français? Qu'est-ce que ça voudrait dire, aujourd'hui, être français? Et avec le sentiment, en plus, que cette question, elle était très confisquée par l'extrême droite, et aujourd'hui par la droite qui chasse sur ces terres à elle. Et moi, je me disais, à l'endroit du théâtre, à l'endroit simplement d'une pratique un peu pragmatique au jour le jour. Nous, si on voulait faire résonner cette question, c'est quoi être français? Pas du tout pour réactiver aucun nationalisme, hein, mais juste vraiment comme un problème, comme ça, pour nous comme un problème, parce que oui, nous on vit dans une société mondialisée, l'Europe ça nous fait pas forcément peur, bon voilà, le multiculturalisme de la société c'est pas forcément une angoisse, au contraire, enfin bon. Mais dans tout ça, ce serait quoi être français? Et puis avec des réflexions aussi qui venaient d'écrits, de philosophes, Je pense au texte justement, par exemple, qu'avait écrit Bernard Stiegler sur le 21 avril, Aimer, s'aimer, nous aimer, dans lequel Bernard Stiegler disait une chose intéressante, qui disait qu'au fond, pour qu'il y ait un je individuel, il faut qu'il y ait un nous collectif. Je caricature, hein, je suis pas philosophe. Hein, toutes ces choses-là, je le dis en commençant, je les brasse avec de manière amateur, enfin, mais simplement, ça nourrit après la pratique du plateau. Mais bon, donc il y avait cette question et de se dire, mais alors, au fond, un nous, ça se constitue dans la reconnaissance ensemble d'une culture commune, mais une culture qu'on peut s'approprier, même si on n'en est pas héritier biologiquement, même si on est en France depuis la semaine dernière. Enfin bref, l'idée qu'on pouvait s'approprier la culture nationale. Alors je me disais, bah, s'il y a un phénomène d'appropriation de la culture nationale, il faut que nous, en tant que praticiens de théâtre, à intervalles réguliers, eh ben, on retourne à l'appropriation de la culture nationale. Qu'on laisse pas la question de la culture nationale et du patrimoine à nos ennemis. Et qu'on s'en occupe. Voilà, je me disais, le patrimoine, il faut s'en occuper. Bon, donc il y avait cette question-là, et de se dire, au fond, face aux classiques, quand on fait du théâtre, la question, c'est pas de les célébrer, c'est pas de les glorifier, de célébrer le génie de Corneille, de Molière, de Racine, de Marivaux. Non, mais c'est de leur trouver un traitement, un usage, c'est-à-dire, est-ce que ça nous intéresse encore comme matière de théâtre, simplement à l'endroit où nous travaillons? Et puis au-delà de ça, est-ce que c'est audible? Est-ce qu'il y a quelque chose à entendre aujourd'hui pour nos contemporains? Qu'est-ce qu'ils peuvent entendre dans toute cette matière? Moi, j'avais été très frappé par des mises en scène que les Anglais font de Shakespeare. Il y a un metteur en scène en France qui s'appelle Dan Gemet, qui est anglais et qui a monté plusieurs textes de Shakespeare, avec une liberté totale, c'est-à-dire avec une sorte d'appropriation de son propre patrimoine littéraire, très très ouvert, très libre. Et moi, ça me séduisait beaucoup, cette idée. Donc je me disais, mais j'aimerais bien pouvoir avoir la même liberté en tant que metteur en scène français vis-à-vis du patrimoine théâtral dont je suis héritier et dépositaire. Donc il y avait aussi cette idée-là, jouer avec les classiques, s'en servir. Il y avait aussi une phrase de Peter Sellars qui disait ça, il disait un classique, c'est comme les boîtiers d'incendie à ouvrir en cas d'urgence, quoi, en cas d'urgence briser la glace. Et donc il disait ça, Sellars, sur les classiques. Je trouvais ça assez troublant de dire un classique, faut aller s'en servir en cas d'urgence. Bon, voilà, il y avait toutes ces réflexions-là. Et puis, du coup, pour raconter vraiment le processus, moi je suis allé relire Musset, Marivaux, Molière. J'avais pas vraiment un choix qui était particulièrement fixé sur le misanthrope.
Musset, vous connaissiez déjà.
Oui, Musset, j'avais monté Lorenzaccio et j'avais envie de monter Fantasio, par exemple. J'avais envie de repasser par cet auteur-là. Et puis, je me suis dit que la problématique qui était celle du départ, celle de la culture nationale ou celle du patrimoine, eh ben, elle rendait presque obligatoire d'aller à Molière. Bah, au fond, parce que c'est vraiment l'auteur national. C'est-à-dire, je me faisais la réflexion là, je pense que ça doit être l'auteur français le plus connu, j'imagine, des gens. Voilà, je pense que tout le monde connaît Molière, l'école l'enseigne très violemment, enfin, presque, je dis violemment, enfin, très fortement en tout cas.
Je vais même, moi, jusqu'à dire, je le justifie, mais c'est le patron. Bon, ça, c'est ce que disent les gens de théâtre, c'est le patron, Molière, c'est
Oui,
le
bien
patron, il y a le
sûr.
buste de Molière au conservatoire, mais je crois, moi, je vais jusqu'à dire que c'est le patron du théâtre bourgeois,
Oui.
même européen.
Européen, peut-être, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une matrice fondamentale. C'est-à-dire, de la même manière, je pense que nos confrères anglais ne peuvent pas échapper à Shakespeare. Oui, un jeune acteur français, il n'a pas échappé à Molière. Donc voilà, y revenir régulièrement pour se demander si c'est simplement une scie imposée ou si c'est une matrice active, jouissive, intéressante pour nous, qui est aussi une manière de réinterroger notre discipline et la façon dont on l'a apprise, nous, dans ce pays. Donc c'était intéressant d'aller à Molière. Et une fois que la question Molière était posée, eh bien, au fond, je dois reconnaître que le choix du misanthrope, je raconte tout ça pour qu'on comprenne que c'est pragmatique, c'est-à-dire c'était pas un choix électif. Après, il y a des rationalisations a posteriori qui permettent de dire le misanthrope pour telle et telle raison. Mais dans la réalité de la pratique, puisqu'on est là dans cette discussion autour des pratiques, dans la réalité de la pratique, le choix, il s'est fait comme ça, par étapes, successivement. Donc, Molière, et là, eh bien, au fond, j'avais pas beaucoup le choix parce que j'avais six comédiens qui rentrait dans la distribution du misanthrope. J'avais trois garçons et trois filles, donc j'avais Alceste Philinte-Oronte, Eliante, Célimène Arsinoé. Il me manquait les deux marquis. Et on a joué la pièce à huit. Je précise donc qu'on a enlevé Dubois et qu'on a enlevé tous les petits valets. Et la maréchaussée, enfin le représentant du tribunal des maréchaux de France, enfin, on a enlevé tout ça.
Basque.
Basque, voilà, les valets. Bon. Donc il me fallait huit comédiens. J'avais les trois garçons et les trois filles pour faire les six rôles que j'ai cités. Et puis, je venais de travailler avec deux frères presque jumeaux, enfin, qui se ressemblent énormément sur une pièce contemporaine que j'avais montée peu de temps avant. Des garçons avec des faciès très particuliers, enfin, des physiques comme ça très forts, qui pour moi sont mes jumeaux de Cantor à moi, quoi. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Et je leur ai proposé de jouer les deux marquis, parce que je trouvais que c'est des rôles très difficiles et qu'il fallait trouver quelque chose sur les marquis. Ils ont accepté. Et donc voilà, ma distribution, enfin, bon, le groupe d'acteurs avec lequel je voulais travailler rentrait dans la distribution du misanthrope. Et ça, c'était parfait. Donc ça, c'était une première raison. Une deuxième raison, c'était que il me fallait une pièce chez Molière où il n'y ait pas de rapport de génération, puisque j'avais des gens que du même âge. Et je voulais pas faire une fiction. Enfin, si j'avais voulu monter Tartuffe, j'aurais pas pu prendre dans les comédiens que j'avais quelqu'un pour faire Orgon et quelqu'un pour faire Marianne. Marianne, elle s'appelle, hein, la fille de... Voilà. J'aurais pas pu trouver ce rapport-là, parce qu'ils avaient vraiment le même âge. C'est des gens qui avaient entre 30 et 40 ans, disons. Or, il se trouve que le misanthrope, à ma connaissance, c'est une des seules pièces de Molière où il n'y a pas de rapport de génération. Ou en tout cas, c'est pas central. Alors après, on peut discuter pour savoir si Alceste est plus vieux que Célimène, mais rien n'oblige. Ils peuvent être de la même génération, donc il n'y a pas de rapport de génération. Et en plus, dans le misanthrope, une fois que j'avais enlevé les valets, il n'y avait plus de rapport de classe. Donc du coup, il y avait, ce qui est très rare chez Molière d'habitude, on a toujours cette structuration chez lui. En abscisse et en ordonnée, enfin, il me semble, dans les pièces en tout cas que moi je connais, j'ai pas tout lu, on est toujours rapport de classe, rapport de génération, qui structure beaucoup la pièce. Et là, on avait donc une classe d'âge, une seule classe sociale. Donc on avait, j'allais presque dire, un groupe d'amis. Et nous, comme on voulait aussi méditer quelque chose sur la troupe, sur notre histoire de troupe, eh ben, c'était la pièce idéale tout d'un coup. C'est-à-dire qu'on avait un groupe d'amis qu'on allait voir s'agiter et avoir des... Là, c'est la dimension, j'allais dire, biographique pour nous de cette pièce-là. C'était de projeter quelque chose sur notre groupe d'artistes, enfin d'acteurs, de cette famille-là de théâtre, ce groupe de gens, cette fratrie, parce qu'on est comme une sorte de fratrie. Et de méditer quelque chose sur nous-mêmes, sur notre fratrie, à travers cette pièce, qui est une grande pièce sur l'amour, à mon avis, et une grande pièce sur l'amitié. Alors ça nous intéressait beaucoup, évidemment, cette question-là. Bon. Et puis, dernier élément, du coup, qui arrivait comme ça ensuite, qui sortait ensuite du chapeau pour nous, on venait faire de ce spectacle, ça ira quand même, sur la grande plainte contemporaine, c'est-à-dire la grande protestation. Il y avait une phrase de Van Eghem, de Raoul Van Eghem, dans le spectacle, qui était assez centrale, déterminante, qui était « Le mécontentement est partout et les solutions nulle part ». C'était un des points de départ du spectacle dans le Saïra quand même, c'est-à-dire la sensation qu'il y a une protestation ou un désir de protestation qui peine à se construire, ou, comme dit une partie de l'extrême-gauche, à trouver un débouché politique. Bon, c'était un des endroits de travail pour nous. Et du coup, eh ben, le misanthrope nous intéressait pour regarder... le Timon d'Athènes français, c'est-à-dire la grande plainte dans la littérature dramatique française, la grande protestation, la grande condamnation de la société à travers la bouche d'Alceste. En tout cas, oui, on peut dire la grande plainte. On venait d'entendre, nous, la plainte contemporaine, celle de notre époque, et on se disait, bon, ben voilà un argument supplémentaire pour aller du côté du misanthrope, parce qu'on va la confronter, la plainte contemporaine sur laquelle on a travaillé, à une autre plainte, la plainte d'Alceste au XVIIe siècle, et avec des symptômes proches, c'est-à-dire qu'on avait, nous, regardé les symptômes dépressifs de l'époque, quand on avait fait Saïra quand même, c'est pour ça que le spectacle s'appelait comme ça, avec le sentiment qu'on était à la fois une génération, mais pas seulement une génération, une société maniaco-dépressive, en gros, et donc c'était assez intéressant d'aller regarder la grande figure de maniaco-dépressive de la littérature, ou dépressive, enfin mélancolique en tout cas, pour pas polémiquer, on va dire mélancolique, la grande figure mélancolique de la littérature dramatique française, Alceste. Donc ça faisait pas mal de faisceaux comme ça, de convergence, qui nous incitait à aller voir le misanthrope, plutôt à reculons, je dois bien l'avouer, parce que la pièce me paraissait très ennuyeuse dans le même temps, quand moi je la lisais. Il s'y passe pas grand chose, ça parle beaucoup. Je parle vraiment de l'ouverture du texte, quoi. Par rapport à Molière, si on prend Don Juan, c'est plein de rebondissements. Moi, j'ai monté Les Fourberies de Scapin il y a des années, mais même L'École des femmes, enfin, c'est plein d'intrigues. C'est des pièces à intrigues. Il y a des échanges de billets, il y a des quiproquos, il y a des déguisements, pas dans L'École des femmes, mais même Tartuffe, on se met sous la table, enfin bref, il y a plein de ressorts de théâtre. Le misanthrope, il y a des échanges de billets, mais c'est quand même beaucoup des gens qui discutent dans un salon, hein. C'est quand même beaucoup ça la pièce quand on la lit, quoi. Donc bon, on était un peu réticents, prudents.
J'ai l'impression que c'est mon regard, hein, sur la pièce. C'est une pièce en fait autant bavarde que l'école des femmes. Je laisse de côté le Faubourg des Scapins qui est un texte en prose,
Oui.
donc qui a l'air plus vivant. C'est une pièce en fait qui est autant bavarde que l'école des femmes, même qui contient moins de monologues, beaucoup moins que l'école des femmes qui contient une profusion de monologues. Simplement, c'est une pièce où les personnages proposent, j'ai envie de dire, le plus de tirades. En fait, c'est le côté tirade
Oui.
qui vu de l'extérieur, fait que. Et des tirades qui ne disent pas, qui ne donnent pas ce qu'à l'université on appelle des didascalies internes, c'est-à-dire les indications du jeu
Mais absolument.
dans les discours des acteurs, qui ne disent pas ce qu'ils font.
Mm.
Mais j'ai toujours lu, c'est étonnant, j'ai toujours lu, c'est un regard personnel, hein, Le Misanthrope, comme une pièce qui donne lieu à des scènes beaucoup plus violentes que l'école des femmes. Vous
Oui.
voyez, comme les regards a priori.
Oui. Et justement, ce qui s'est passé pour nous dans le travail, c'est qu'on a vraiment découvert la pièce en la travaillant. Et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est-à-dire, c'était très très plaisant cette chose-là, c'est-à-dire que c'était pas un texte où j'arrivais avec un fantasme de réalisation théâtrale. Je suis pas arrivé face à ce texte avec une projection, en me disant, ce qui était le cas quand j'avais monté Lorenzaccio. J'avais un rêve ancien sur Lorenzaccio. J'avais pas de rêve sur Le Misanthrope. Et je le faisais vraiment presque à titre d'exercice pour nous, pour la troupe, avec beaucoup de désir, mais un peu comme on se dit qu'on va aller courir un marathon parce que ça va nous faire du bien. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose comme ça, une sorte de défi qu'on se lançait à nous-mêmes, mais sans fantasme. Il y a d'autres pièces de Molière qui me font fantasmer, qui me font rêver, Don Juan en particulier, Amphitryon par exemple, comme ça, des pièces, oui, qui sont, qui nous déclenchent ou qui nourrissent l'imaginaire. Celle-là nourrissait pas énormément d'imaginaire pour moi. Elle était pas, oui, elle activait pas beaucoup d'imaginaire. Je sais, par exemple, on a mis beaucoup de temps à trouver la scénographie, on travaillait, et ça nous résistait beaucoup. Pour des raisons que vous venez aussi de dire, c'est-à-dire que cette absence est intéressante. Je connaissais pas l'expression de didascalie interne, mais je comprends exactement ce que ça veut dire. Ça me paraît très concret, ce problème-là. Parce qu'effectivement, bah, plein de choses sont possibles, enfin, et un peu rien, enfin, donc c'est très ouvert, mon nom. Et ensuite, on a commencé à la mettre en travail avec les acteurs. Et alors, paradoxalement, la première chose qu'on a faite, c'est on a fait une semaine de travail pratiquement sans le texte, uniquement sur la structure de la pièce et les scènes,
En improvisation.
en improvisation. Voilà. Uniquement sur les rapports des corps. Alors, c'est des exercices formels, hein, au théâtre, c'est voilà. Mais pour nous, c'était justement de se dire, parce qu'il y avait un peu une terreur de cette en pleurs de la langue. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas du tout rentré dans la pièce par la langue. Ça aussi, ça me paraît très important à dire. Pas par refus, mais simplement parce qu'on avait besoin de recomprendre ce qu'elle racontait, avant de se perdre dans les mots, dans l'alexandrin. Tout ça, moi, ça m'effrayait un peu. Et de se dire, non, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens? Il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires d'amour, il y a des trahisons, il y a des. Il y a des choses qu'on se dit, il y a des mensonges visiblement, il y a des heurts très violents, il y a des combats, enfin. Alors c'est ça qu'on voulait remontrer. On se disait, il faut que ça passe par les corps, d'une manière ou d'une autre, il faut que tout ça repasse par les corps. Il faut que l'histoire, elle repasse par les corps, par nos corps. Et la question en plus pour nous, c'était de se dire, il faut que ça passe par des corps d'aujourd'hui, il faut que ça. Parce qu'on voulait encore une fois que ça ait cette dimension. C'est pas qu'on le voulait, c'est qu'il n'y avait pas le choix pour nous de. Il y avait une belle phrase de Vitesse qui dit que l'acteur vient toujours faire contrebande de ses secrets. Moi, c'est une chose que j'aime, c'est une idée qui est très vraie. Et la troupe, là, elle devait venir faire contrebande de ses secrets dans ce spectacle. Nous, la tentative, avec notre histoire à nous, on avait des choses à se dire par ce biais-là, et il fallait réactiver ou activer entre nous les rapports de la troupe et voir comment c'était à travers nos corps, enfin ceux des acteurs, que cette langue allait passer. Donc, s'est d'abord demandé comment simplement la fable, l'intrigue, allait habiter ses corps, voilà. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce travail sans le texte. Et puis il y avait un autre, et ça a été une première découverte de la violence de la pièce, de sa violence, parce que ça a été violent entre les gens, du coup, physiquement. On s'est rendu compte qu'en réalité c'était plein de déchirements, plein de coups. C'est-à-dire, même dans, je me souviens, dans le premier temps des répétitions, même avec le texte, Alceste passait son temps dans les bras de Philinte. Soit dans le réconfort, soit pour l'empêcher d'aller se battre physiquement. Enfin, Philinte était sans arrêt en train de le retenir ou de le consoler. Donc il y avait une chose très très charnelle comme ça qui commençait à se construire entre les acteurs, qui était assez belle, qui reste pas forcément d'ailleurs, hein, au final dans l'objet. Mais c'est juste pour qu'on réussisse à comprendre le type de rapport qui existait entre ces personnages. Et puis il y avait un autre axe pour nous, c'est que moi, j'étais très effrayé en voyant la pièce par l'inégalité des rôles. Ce qui était très compliqué par rapport à la troupe. C'est qu'on sortait du spectacle, ça ira quand même, dans lequel les six interprètes avaient exactement les mêmes partitions. C'est très égalitaire comme partition. Et là, on retombait dans une chose qui est très difficile quand on est vraiment une troupe de théâtre, c'est la hiérarchie des rôles. Et qu'Alceste a, je crois, la moitié des vers de la pièce, que le quart d'après doit se séparer entre Célimène et Philinte, et que tous les autres interprètes se partagent le quart restant. C'est très 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 dur. Hein. Quand vous avez à jouer Oronte, hein, une scène à l'acte 1, une scène ou deux scènes à l'acte 5, l'acteur avec lequel moi je travaille depuis longtemps et qui joue Oronte, je lui proposais pas une chose a priori très excitante. Pareil pour Arsinoé, pareil pour Eliante. Bon. Les interprètes qui faisaient Philinte, Alceste et Célimène, c'était plus facile pour eux évidemment. Mais bon, alors on recrée de l'inégalité. Bon. Ça c'était compliqué, et puis surtout ça m'a... Non seulement il y avait de l'inégalité entre les interprètes, ce que je trouvais compliqué, mais en plus, il y a une chose terrible au théâtre, enfin que moi j'avais du mal à traiter, c'est le retour en coulisses, le retour en loge pour l'acteur, quoi. C'est très difficile. C'est très difficile techniquement. C'est-à-dire quitter le plateau, retourner en loge et revenir. Quand vous avez un partenaire qui, lui, est, je pense à Alceste, est là pratiquement tout le temps. Quand vous rentrez à l'acte 3, je pense à Arsinoé, vous êtes affronté à quelqu'un qui est là depuis l'acte 2, voire à Alceste qui est là depuis l'acte 1, vous n'êtes pas dans la même chauffe physiquement, vous n'êtes pas chaud, quoi. Comme un sportif, quoi. C'est exactement le problème du footballeur qui rentre sur le terrain au milieu de la deuxième mi-temps. Alors il se met à courir dans tous les sens, il veut tout de suite aller marquer un but, quoi. Parce qu'il n'est pas dans la partie, voilà. Et c'est toujours difficile quand on voit rentrer un acteur, de le voir essayer de se mettre dans la partie. Souvent, il veut trop en faire. Il prend pas la note au bon endroit, quoi. Donc ça, c'est un problème technique. Il y avait un problème, j'allais dire, politique, d'égalité de traitement entre les interprètes, et un problème technique de d'état de jeu. Dans quel état je vais rentrer. Bon, moi, j'avais monté Puntilla de Brecht quelques années avant. Alors pareil, Puntilla, c'est un rôle écrasant, et donc il y avait ce système d'entrée et sortie dans Puntilla, et c'était très épuisant pour les interprètes qui avaient des petits rôles, parce que ils se retrouvaient face à un acteur qui avait trois quarts d'heure, voire une heure de plateau, qui était chaud, et eux devaient exister en quelques répliques. C'est très très difficile, quoi.
Oui. Pourquoi est-ce que ça ne vous avait pas gêné pour Lorenzaccio, par exemple ?
Si, ça m'avait gêné, ouais. Si, si, mais Lorenzaccio, je sais que vous l'avez vu, mais c'est vrai que c'est une mise en scène qui, pour moi, est... Je ne vais pas dire raté, parce que je ne vais pas être violent vis-à-vis de moi-même, mais elle était très très difficile, quoi. J'ai eu beaucoup de mal, moi, dans le rapport à cette pièce-là. Si, si, ça m'avait gêné dans Lorenzaccio, en fait. Les questions d'entrée et sortie et l'inégalité des rôles. Pour des raisons humaines, psychologiques. Ensuite, quand vous tournez avec 18 comédiens et qu'il y a des telles inégalités de partition, c'est douloureux. Enfin, vraiment. Vraiment. C'est des vraies questions en réalité, quoi. Ah, il y a des ruses à chaque fois, on prend des jeunes pour faire les petits rôles, enfin on trouve des solutions. Mais bon, là moi j'étais avec ma troupe, donc je pouvais pas faire ça. J'avais eu le même problème des questions la question des... Enfin, j'ouvre une question qui est centrale sur le traitement que nous on a fait de la pièce, c'est la question des entrées et sorties. Alors pourquoi ? Parce que du coup j'ai dit aux acteurs, alors écoutez, vous serez tous au plateau tout le temps. C'est-à-dire que la représentation aura la même durée pour chacun des interprètes. Promis, juré. Je me démerderai pour que ce soit possible.
À la façon de Strehler dans Harlequin,
alors
traitement.
Alors je sais pas, parce que je l'ai vu ici à Dijon il y a quelques années, le Harlequin valet de 2 mètres. En tout cas, parce que vous dites Strehler, donc moi je pense à Brecht immédiatement. En tout cas, c'était pas brechtien comme principe pour moi. C'était pas un principe brechtien de dire les comédiens sont là et rentrent en jeu quand leur scène arrive. C'était vraiment l'idée que les personnages allaient tous être là pendant toute la durée de la représentation. Les personnages. Pas les acteurs.
Et ça. Strehler avait trouvé une troisième voie. Je vais confirmer. Sur Strehler, c'était les personnages des acteurs qui étaient sur scène. Donc on voyait au fur et à mesure que les personnages quittaient la scène, ils étaient sur leur banc, ils se pomponnaient, ils parlaient, ils se maquillaient, ils faisaient des mines. C'est-à-dire, ils continuaient à jouer, mais comme des acteurs du 18e siècle.
Du 18e siècle, d'accord, oui. Et là, nous, c'était vraiment l'idée qu'on allait faire de cette pièce un huis clos à 8. Mais ça, c'était sur le papier avant de commencer. Et ensuite, ça, c'était un pacte, presque, d'une certaine manière, qu'on avait passé entre nous, avec ce double souci, encore une fois, je le dis, politique et technique. Politique, égalité de traitement entre les interprètes. Technique, égalité d'investissement dans la durée de la représentation. Temps égal de représentation pour tous, même temps de plateau pour tous. Et ensuite, il fallait monter la pièce avec cette contrainte-là. Et là, j'allais dire, les ennuis commencent, évidemment. Alors les ennuis commencent, on s'en est sorti, je pense. Mais en tout cas, ça nous a vraiment obligés à aménager la pièce. Parce qu'il me semble qu'un des ressorts du misanthrope, ce sont les entrées et sorties. C'est-à-dire, Alceste acte 2, Alceste est avec Célimène, tous les deux, et l'acte 2, ça n'est qu'une suite d'intrusions. C'est-à-dire, arrive Basque, qui annonce l'arrivée de Clitandre, puis l'arrivée d'Acaste, puis arrive Philinte et Héliante, puis arrive un exempt quelconque, là, qui vient à dire que le tribunal des maréchaux de France attend pour régler la question du sonnet avec Oronte. Enfin, ça ne sont que des suites d'intrusions. Et en fait, Alceste et Célimène, par exemple, sont en permanence interrompus par des tierces personnes. Donc, avoir remis tout le monde dans un espace unique, tout à coup, ça questionnait totalement la structure de la pièce. Ça nous obligeait à la traiter autrement. L'acte 1 tenait à peu près. À peu près. C'est compliqué, mais ça tenait. Et à partir du. Et l'acte 4 et 5, c'était pas très compliqué non plus, en réalité. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait exact, parce que la scénographie, c'est un système c'est un système de rideaux qui tournent. Donc, qui peuvent cacher des parties du plateau, mais très peu en réalité, en tout cas qui ne créent jamais la fiction d'un hors-champ. Il est bien clair pour tout le monde que la personne qui est là derrière le rideau, elle l'est dans l'espace du plateau d'une manière ou d'une autre, bien sûr, elle n'a pas disparu. On allège l'œil parfois du spectateur en faisant disparaître certaines silhouettes, mais je pense que dans la conscience du spectateur, il est clair que l'espace, qui est le plateau nu du théâtre d'ailleurs, des théâtres entièrement dépendrillonnés, donc on a enlevé tous les rideaux, donc on voit les cages de scène nues, avec simplement une moquette sur cet espace, et puis un système de rideaux qui tourne, et quelques fauteuils disposés dans l'espace, un système techniquement sophistiqué, mais visuellement assez simple, c'est bien un espace unique, clos, dans lequel les gens sont pris et dont ils ne sortiront pas. Ça a été le point de départ du travail.
Dans votre façon de rendre compte de cette pièce, qui est une pièce du XVIIe siècle, je parle esthétiquement, puisque vous êtes en train de parler de décors de plateau, avec les quelques repères qu'on a de la façon dont les gens montent des classiques, c'est-à-dire là, en l'occurrence, une pièce qui a 330 ans, on va dire. Il y a les exemples qu'on connaît, qui sont les exemples repères, du moins pour moi comme spectateur. C'est par exemple la mise en scène des classiques par Planchon, qui veut montrer, comme dans les romans historiques, la temporalité, la pièce étant un document sur le siècle, ou tel autre metteur en scène, par exemple, la façon dont Mesguiche veut absolument dépoussiérer un texte pour ne pas qu'on l'ait trop entendu, ou tel autre metteur en scène qui montre les fractures du temps, ou encore tel autre, on avait parlé tout à l'heure de Vincent, qui veut restituer ce que cette pièce peut nous frapper dans le présent et dont c'était à l'époque, le souvenir que j'en ai, la préoccupation principale. Vous vous situez comment par rapport à ce document historique?
Bah, j'ai commencé à amorcer une réponse tout à l'heure en disant que c'était bien ces acteurs-là, ce groupe d'acteurs-là, ces corps-là qui devaient être sur scène. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'on a sous les yeux, c'est contemporain, comme on dit. Voilà. À double titre, c'est que, oui, c'est des costumes d'aujourd'hui, mais bon, ils ne sont pas spécialement, plus précisément datés que ça. Non, ce qui fait vraiment moderne, c'est le... J'aime pas le mot, mais j'essaierai de m'en expliquer, évidemment. Mais ce qui peut faire moderne là-dedans, c'est la musique. Puisque, mais il faudrait que je réexplique un peu pourquoi, c'est de la musique d'aujourd'hui, c'est de la musique du rock, de la pop, anglo-saxonne en plus, c'est-à-dire que ça chante en anglais dans le misanthrope qu'on a fait, et c'est chanté au plateau par les acteurs. Alors, c'est des playbacks en l'occurrence, mais c'est bien les acteurs qui sont là en train de chanter, donc ça c'est vraiment des signes d'aujourd'hui. Mais... Je suis un peu gêné parce qu'en fait, je pense pas avoir de théorie préalable par rapport à la question que vous posez. J'ai pas de théorie préexistante. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéressait moi, c'était c'était un processus plus qu'un objectif. C'était un processus plus qu'un objectif, c'est-à-dire en fait, traverser notre confrontation avec ce document historique. Vivre notre confrontation à ce document historique sans beaucoup préméditer du résultat. Pour commencer. Donc maintenant, c'est fait, donc je peux peut-être essayer de dégager ce qui s'est produit. Mais du coup, il y avait un vrai désir de j'allais dire d'hybridation, tout simplement. C'est-à-dire de s'en servir. Je me disais récemment, quelle métaphore je pourrais trouver de ça? Je vais en trouver une très prétentieuse, mais c'est la pyramide dans la cour du Louvre, quoi. C'est-à-dire, quel usage de ce bâtiment on va trouver pour aujourd'hui? Bon, bah, on va mettre une pyramide en verre dans la cour, puis ce sera la nouvelle entrée, et c'est comme un nouvel usage de l'époque. Vitesse dit des choses assez belles là-dessus, même si lui, il me semble qu'il avait parfois un vrai souci de montrer la distance, donc la distance historique qui nous sépare du texte qu'il y
Les
avait.
fractures du temps, il disait.
Et en même temps, il disait une chose assez belle, c'est comment est-ce qu'on réhabilite le vieil hôtel haussmannien, hein, on le redécoupe en appartement moderne. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans notre façon d'habiter cette pièce-là. C'est-à-dire qu'on a pris un monument du XVIIe siècle, on a rajouté des cloisons partout pour pouvoir vivre dedans. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Donc certains diront saccage, certains diront ah bah du coup c'est habitable, alors qu'avant, oui, c'est vrai qu'on ne sait plus habiter ça. Là, du coup, ça redevient habitable. Bon. Donc c'était surtout ça, un effort pour habiter la pièce. Et un effort pragmatique, donc, qui supposait qu'on parte de l'immédiateté de nos vies, du plus proche de nous-mêmes. Et donc, par exemple, les musiques qui traversent la pièce, c'est les musiques qu'on écoutait, enfin, que moi j'écoutais quand je travaillais sur la préparation du spectacle. Et ensuite, je me suis dit, mais au fond, c'est pas parce qu'on passe au XVIIe siècle et qu'on monte Molière que je vais aller chercher des musiques que j'écoute pas. Je vais aller chercher Lully ou Couperin, alors que j'ai aucune pratique, moi, d'auditeur de ces musiques-là. Et qu'il faut avoir l'humilité, je dis bien l'humilité, et pas la prétention, de simplement partir de soi, et de partir de ce qu'on fait, parce que l'usage de la pièce, il fallait d'abord l'inventer pour nous-mêmes, encore une fois. Il fallait la rendre habitable déjà pour nous-mêmes. Donc
Vous
c'est.
avez choisi de traduire, en fait. On peut choisir de recopier, on peut choisir de traduire. Le seul exemple qui me vient, c'est celui de la Péricole qui s'est jouée à Dijon. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
Non.
La Péricole s'est jouée à Dijon. La Péricole se passe au Pérou et on
Oui.
a l'habitude de certains décors, certains costumes d'Offenbach, façon au Pérou. Et j'ai vu ça, c'était le mois dernier. J'ai trouvé ça très intelligent, le choix du metteur en scène. Je crois qu'il est le directeur du théâtre municipal de Dijon, tout simplement. Avait été de faire un Pérou de fantaisie, puisque du temps d'Offenbach, c'était un Pérou de fantaisie. Et donc, la scène de foule dans ce Pérou de fantaisie, c'était un bonhomme qui avait un t-shirt Che Guevara, quelqu'un qui était déguisé avec des lunettes noires, un chapeau, hein, comme un vendeur de drogue mafieux, un rastaquouère, ce qu'on peut imaginer comme sud-américain dans une Amérique du Sud de fantaisie. Et en fait, c'était quelque part, c'était complètement différent d'Offenbach, mais en même temps, c'était la vraie traduction. C'est pour ça que j'ai parlé de traduire,
Oui,
c'est mettre du pop, de la
peut-être.
pop et du rock pour
Ouais.
parler d'une pièce de jeunes gens, une fois que vous avez éliminé, comme vous dites, les différences sociales. Effectivement, ce sont des jeunes gens du même milieu, qui sont des gens très jeunes, qui.
Oui, en tout cas, c'est oui, disons, c'est des trentenaires. Enfin, pour moi, c'était ça. Oui, la traduction en même temps, c'est compliqué parce que j'essaye d'être prudent sur ces termes-là, parce qu'à aucun moment dans le travail, on s'est dit. Voilà l'équivalence terme à terme qu'on va opérer. C'est-à-dire de se dire ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Je me méfie beaucoup de ça, personnellement, comme metteur en scène, parce que souvent, vous savez, c'est toujours cette idée qui finit par dire ça y est, j'ai trouvé. C'était un peu le problème que moi j'avais sur Lorenzaccio, puisqu'on en parlait tout à l'heure, mais bon, je vais évacuer la question, parce que je fonctionnais beaucoup comme ça. C'est-à-dire, ah oui, ça y est, j'ai trouvé, le misanthrope, en fait, ça se passe, tac. Ça y est, j'ai trouvé la question de l'idée. Et là, il n'y a pas vraiment, chez nous, il n'y avait pas vraiment d'idée. Au fond, ce qui a fini par cimenter tout ça et le rendre plausible pour nous, c'est d'abord la fréquentation assidue du cinéma de David Lynch, qui était aussi une référence très importante pour nous dans le travail depuis longtemps, mais là, qui était activée particulièrement, même si ça ne se voit pas à la fin, c'est pas très grave ça. À cause du cauchemar, voilà. Parce que je crois que c'est quelque chose de cauchemardesque dans le cinéma de Lynch, et qu'il y avait quelque chose de possible dans la pièce, il y avait un cauchemar dans la pièce. Il y avait un cauchemar possible dans cette pièce, en fait. Et à partir du moment où on était dans cette idée que c'est par le cauchemar qu'on allait attraper la pièce, alors du coup, les télescopages étaient possibles. Et pour répondre à une question qu'on avait évoqué avant dans notre discussion, sur la question de l'alexandrin, par exemple, une chose que nous on s'est dite, c'est une des dimensions du cauchemar, c'est que tout le monde part d'envers, quoi. C'est-à-dire, on pourrait se dire que dans mon rêve, tout le monde parlait en alexandrin. C'était atroce, c'était une sorte de souffrance collective. Tout le monde parle en vers, bon.
Donc, ce sont les personnages dans cette pièce, enfin dans votre mise en scène, qui parlent en vers et pas l'auteur.
Ah oui. Je pense, je me suis même jamais posé la question de l'auteur par rapport à ça. Je me suis jamais même posé la question de l'auteur dans la mesure où, enfin, on y reviendra peut-être un peu après, mais. Donc il y avait cette dimension-là, c'est-à-dire dire, finalement, ça va être un cauchemar. Et là, et ben ce que je disais tout à l'heure sur le huis clos, bah ça devenait tout à coup un ressort dramatique. C'est-à-dire que oui, pendant qu'ils sont en train de faire la première scène, Arsinoé peut être là en train de se maquiller au fond, c'est Arsinoé qui est là, présente, mais parce qu'on sait plus au fond, au bout d'un moment, si on est dans la tête d'Alceste. Peut-être que tout ça n'est jamais que la tête d'Alceste, l'intérieur de la tête d'Alceste. Que les personnages qui sont là, c'est des projections mentales d'un esprit malade. Oui, malade, parce que je crois qu'on a vraiment eu un rapport, je sais pas si c'est médical, mais en tout cas, on a vraiment regardé un Alceste dépressif, enfin, en tout cas, au bord de sombrer, au bord de la folie, de l'hallucination même parfois.
De toute façon, le sous-titre de la pièce, dans le contexte du XVIIe siècle, est un sous-titre médical.
Médical, oui.
Crapulaire, c'est l'équivalent médical. Le misanthrope, c'est un terme très littéraire pour l'époque, hein, presque philosophique. Et la trabilaire, c'est un terme de médecine.
Ce serait quoi, un dépressif, on dirait,
Un
un
mélancolique
mélancolique.
au sens fort, au sens des psychologues et des psychiatres qui disent que les mélancoliques sont ceux qui s'opposent aux emphatiques. Il y a ceux qui spontanément vont vers le bien commun, l'intérêt commun, la jouissance commune, et il y a ceux qui spontanément s'en retirent, s'en dégagent. Mais c'est même plus fort que ça à l'époque de Molière. Dire atrabilaire, vous savez, oui, vous le savez, c'était les classifications de Galien, les quatre humeurs. Mais l'atrabilaire, en plus, il y a une confusion chez Molière par rapport à la médecine classique. C'est dans le texte de Molière. Vous savez, il y a le lymphatique, il y a le colérique et le chagriné, c'est le bilieux. Et c'est dit à plusieurs reprises dans ce texte, dans le Misanthrope, il cumule à la fois les traits du colérique
Donc la bile jaune
et
et la bile
du,
noire.
voilà, la bile jaune et la bile noire. Et Philinte le dit d'ailleurs, lorsqu'il dit, justement, il parle de ça, il dit mon flegme, et flegme, il faut l'entendre encore au sens médical, mon flegme est philosophe autant que votre bile. Mais Alceste dit j'entre en humeur noire, en des chagrins. Enfin, on parle à la fois du côté chagriné et du côté colérique, comme s'ils étaient compatibles. On a l'impression tout d'un coup dans cette pièce, ils sont compatibles.
Et c'est
Donc
vrai, ouais.
c'est mélancolique, mais au sens où c'est non emphatique, mais au sens total, quoi.
C'est vrai que ça, enfin, là-dessus, juste pour dire un mot, puisque moi j'avais regardé effectivement, mais de manière très, très rapide, la théorie des humeurs, et j'avais été très surpris de découvrir que la trabile, c'était bien la bile noire, donc celle de la mélancolie. Et du coup, ça nous a beaucoup inspiré dans le travail. C'est que spontanément, à la lecture de la pièce, on pensait à la colère, évidemment, et qu'on a nous dégagé un peu la colère dans le personnage d'Alceste pour s'occuper beaucoup plus de la mélancolie. Ça a été aussi une clé, d'autant plus que l'interprète qui joue Alceste, Emmanuel Vérité, est enfin, relativement jeune, il a une trentaine d'années. Ce qui n'est pas forcément la tradition d'interprétation du rôle, enfin en tout cas il y a d'autres traditions d'interprétation du rôle, de le faire jouer par un homme de la maturité, enfin.
Il y a même beaucoup plus jeune.
Ah, ou éventuellement ouais, plus jeune, ouais. Et donc du coup ça donnait un personnage, oui, un jeune dépressif. On pensait nous à un autre film, un personnage de Mathieu Amalric dans Roi Zérène, le film de Desplechin, le personnage se fait interner. On pensait vraiment à ça, c'est-à-dire qu'il était entre deux séjours à l'hôpital, enfin, que c'était presque quelque chose comme ça, où il était juste avant son séjour à l'hôpital. On riait même entre nous en se disant au fond, Alceste, il va rentrer à l'hôpital et Philinte en sort. Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Philinte, lui, sort de dépression et Alceste, il est en train d'y rentrer. Enfin, ce qui expliquait pour moi le flegme de Philinte, c'est-à-dire. C'était sans doute l'effet secondaire de beaucoup de médicaments. Enfin bon, mais ça, c'était des histoires qu'on se racontait entre nous, qu'on se racontait entre nous pour rentrer dans la pièce. Mais donc, pour revenir sur la transposition ou sur la traduction, c'est surtout la question de. Oui, cette question du cauchemar, de l'enfermement, de ce groupe de personnes enfermées, cette clôture. Et du coup, ce qui a été important, ça a été la façon dont on a dû remonter la pièce. La démonter, la remonter, et en particulier dans l'acte 2 et l'acte 3, on a été obligé de vraiment faire une sorte on disait entre nous qu'on a customisé le misanthrope, comme on fait du custom sur les voitures, là, on lui a rajouté des ailerons, mais on a été obligé de traficoter des choses dans les scènes. Ouais. Par exemple, je vais en donner qu'un exemple, parce qu'après, il faudrait regarder. Alors, je pense que les sutures se voient pas, si on ne connaît pas la pièce, si on la connaît très bien, elles sont évidemment. Patente, flagrante, mais si on la connaît pas, je pense qu'elle ne se voit pas. Enfin, j'en ai eu l'expérience, puisqu'il y a des tas de gens qui ne se sont pas rendu compte qu'on avait modifié le texte. Modifier le texte, entendons-nous, on n'a pas changé de vers, on n'a pas modifié les vers, on a simplement remonté des scènes. Je vais en donner qu'un exemple très concret. À la fin de l'acte 2, le tribunal des maréchaux de France vient chercher Alceste pour le confronter à Oronte, et on apprendra au début du 4, par un récit de Philinte, comment cette confrontation s'est déroulée. Et alors c'est très amusant parce que j'avais rencontré un camarade metteur en scène qui travaillait en Allemagne, et qui montait Lorenzaccio avec des Allemands, et qui m'a dit oh, « c'est étonnant les Allemands, parce que vraiment, eux, quand une chose elle peut être montrée, ils disent que c'est pas la peine de la dire ».